Dans la vie, et plus précisément dans mes relations familiales, amicales ou professionnelles, je me suis parfois trouvé dans des situations très tendues parce qu'une autre personne et moi avions des points de vue irréconciliables car fondamentalement opposés. Dans de telles circonstances fâcheuses, il est toujours préférable d'essayer de régler les différends à l'amiable, mais comme chacun sait, pour en avoir fait l'expérience, ce n'est pas toujours possible. Les trois jeunes Hébreux qui avaient été déportés à Babylone avec le prophète Daniel se trouvent en très mauvaise posture. Dus à des événements indépendants de leur volonté, ils sont obligés de choisir entre demeurer fidèles à leur Dieu et obéir au tyran Nabuchodonosor, qui exige d'eux qu'ils se prosternent et adorent une statue plaquée or qu'il avait fait faire à sa gloire. Leur situation est critique parce que s'ils refusent, ils seront jetés dans une fournaise ardente, ce qui signifie une mort certaine. Mais ayant rejeté tout compromis, ils ont dit leur dernier mot qui est « Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. Mais, même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » Fin de citation. Les trois amis ne céderont pas et il va sans dire que le roi Nabuchodonosor non plus. Surtout que cette scène se joue devant tous les hauts fonctionnaires de son empire. Il est donc hors de question pour lui de perdre la face et de se couvrir de ridicule en changeant d'avis. Il y a de l'électricité dans l'air et la tension du moment est palpable. Je continue à lire dans le chapitre 3 du livre de Daniel. « Alors, Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego, et son visage devint blême. » Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter solidement Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardemment chauffée. Versets 19 et 20. Comme prévu, la réaction du despote est entièrement prévisible. Étant donné son très mauvais caractère, qui ne tolérait pas le moindre désagrément, et face au défi lancé à son autorité, il fait une crise de nerfs et devient comme fou furieux. Il aboie alors des ordres demandant à ce qu'on monte le thermostat à fond, c'est ce que le chiffre 7 veut dire, afin que la fournaise soit la plus ardente possible. Nabuchodonosor a vraiment un gros problème de maîtrise de soi. Mais pour sa défense, façon de parler, il faut dire qu'il n'avait probablement jamais rencontré une résistance aussi nette et résolue à sa volonté. Alors il veut que le châtiment des trois Hébreux soit exemplaire dans le but d'enseigner à tous ses dignitaires ce qu'il en coûte de se rebeller contre son autorité politique ou religieuse. Je continue le texte. Aussitôt, les trois hommes furent ligotés, tout habillés avec leur tunique, la robe et le manteau et les autres vêtements, et jetés dans la fournaise où brûlait un feu ardent. Verset 21. La tunique était le vêtement porté à même le corps qui descendait jusqu'aux pieds. La robe et le manteau se portaient par-dessus la tunique. Les autres vêtements mentionnés sont les chaussures et le turban. Cet ensemble est le costume officiel des hauts fonctionnaires de l'Empire. Habituellement, les condamnés à mort étaient déshabillés avant d'être jetés dans la fournaise. Mais ici, d'une part, le roi n'a pas le temps d'attendre tellement il est furieux, et d'autre part, en les brûlant avec leur uniforme sur le dos, c'est une façon de déclarer que leurs charges et responsabilités se terminent avec eux. La fournaise était ouverte au sommet et sur le côté, elle avait une porte fermée par une grille de fer qui non seulement permettait de voir à l'intérieur, mais qui était assez grande pour qu'un homme puisse y passer afin d'en enlever les cendres. Je continue. Mais, comme sur l'ordre du roi, on avait fait chauffer la fournaise au maximum, Les flammes qui en jaillissaient firent périr les soldats qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Verset 22. Le roi était tellement pressé d'en finir avec les trois Hébreux récalcitrants que les soldats n'ont pas pu prendre les précautions nécessaires pour se préserver des flammes. Je continue. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les trois ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. Verset 23. L'auteur a déjà dit que les trois Hébreux étaient ligotés, pourtant la répétition de ce mot n'est pas inutile car elle prépare la suite du récit qui va souligner le fait qu'ils circuleront dans la fournaise libres, sans lien, parce que c'est tout ce que le feu aura brûlé. À la suite de ce verset, l'ancienne traduction grecque appelée la Septante ajoute un texte hébreu traditionnel, un long paragraphe de 67 versets appelé la prière d'Azaria, le nom hébreu d'Abednego. C'est un cantique d'action de grâce exubérant qui contraste avec la sobriété et simplicité de tout le livre de Daniel. Il a été rédigé par un auteur anonyme au IIe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de la famille de prêtres appelée les Maccabées. Je continue le texte traditionnel. C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressant à ses conseillers, il demanda « N'avons-nous pas jeté trois hommes tout ligotés dans le feu ?» Ils répondirent au roi « Bien sûr, majesté !» Verset 24. D'abord fou furieux, le voilà maintenant saisi de stupeur. Avec de telles émotions fortes et à répétition, il risque de faire un infarctus, le pauvre. En bravant son autorité, les trois Hébreux avaient commis un crime de lèse-majesté, un affront qui devait être lavé par le feu. Alors, Nabuchodonosor s'est assis en face de la porte située sur le côté de la fournaise pour profiter du spectacle. Il voulait voir ses insoumis transformés en torches vivantes, ce qui aurait apaisé sa colère et réparé son orgueil blessé. Mais de toute évidence, il se passe quelque chose d'anormal qui le fait sursauter. Il veut alors une confirmation de ses conseillers éclairés, comme quoi il ne rêve pas. Je continue. « Eh bien, reprit le roi, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel, et le quatrième a l'aspect d'un fils des dieux. » Verset 25. « Rien ne va plus. Cette exécution a complètement déraillé. Premièrement, alors que ces trois Hébreux auraient dû être consumés instantanément par le feu intense qui régnait dans la fournaise ardente, les voilà qui se promènent au milieu des flammes comme s'ils étaient dans un parc. La chaleur d'enfer n'a pas eu le moindre effet sur eux et pourtant, elle avait tué les soldats qui s'en étaient seulement approchés. Deuxièmement, il y a une personne de trop dans la fournaise et elle diffère notablement des autres par son aspect général. Nabuchodonosor n'avait aucune conception du Dieu unique et vrai dont Daniel lui avait parlé. Alors, en bon polythéiste, il voit dans ce quatrième homme une apparition surnaturelle qui correspond à un fils des dieux. Il faut savoir que les Chaldéens croyaient à l'existence de divinités inférieures issues du mariage et de l'accouplement de dieux supérieurs. En réalité, ce quatrième personnage est probablement l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire une préincarnation de Jésus-Christ. Ce récit rapporte un miracle tout à fait extraordinaire, car aucune autre explication plausible n'est possible. On ne peut donc que l'accepter ou le rejeter. Soit le livre de Daniel est digne de foi et raconte des événements tels qu'ils se sont déroulés, soit c'est un conte pour enfants. Il faut choisir. À ce sujet, il existe des théologiens protestants qu'on appelle néo-orthodoxes qui, dans leur interprétation des textes sacrés, modifient le sens naturel et normal des mots et des phrases. Selon ce courant de pensée, ce qui est écrit ne traduit pas la pensée de l'auteur ni ce qui s'est réellement passé. Les miracles n'ont donc pas vraiment eu lieu et sont simplement une manière de s'exprimer dont il faut découvrir le sens véritable. Ces gens qui ont perfectionné l'art de parler pour ne rien dire sont très dangereux parce que leur discours, style langue de bois, trompe ceux qui les écoutent avec des conséquences éternelles. Parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant son idole, les trois amis hébreux ont été persécutés à mort par Nabuchodonosor, l'homme fort du moment, qui les a jetés dans la fournaise où ils auraient dû mourir instantanément carbonisés. Mais comme ils sont bien vivants et en parfaite santé, c'est qu'un grand miracle a eu lieu et c'est bien ainsi que le texte le présente. Cet événement historique qui vient de se dérouler dans la plaine de Dura, à une dizaine de kilomètres de Babylone, a aussi une portée prophétique car c'est un avant-goût des drames qui se joueront pendant la grande tribulation. À la fin des temps, un potentat païen que les Écritures appellent l'Antéchrist fera son apparition sur la scène internationale et deviendra un dictateur très puissant d'envergure mondiale. Après 3 ans et demi de règne, il commettra un acte idolâtre dont j'ai déjà parlé et que Daniel appelle l'abomination de la profanation. Suite à cet acte infâme, il exigera qu'on l'adore comme Dieu, et quiconque refusera sera pourchassé et mis à mort. Jouissant d'une autorité à la fois politique et religieuse, il déclenchera une attaque tous azimuts contre les Juifs dans le but de les anéantir. La plupart des gens, y compris beaucoup d'Israélites, se soumettront et se prosterneront devant lui jusqu'à le proclamer nouveau Messie. Mais, comme les trois jeunes Hébreux, un petit nombre de Juifs fidèles refusera de faire ses 4 volontés. Les vrais croyants aussi lui résisteront et seront sévèrement réprimés, et beaucoup d'entre eux souffriront le martyr par fidélité à Jésus-Christ. Pendant la persécution qui aura lieu sous le régime de l'Antéchrist, Dieu interviendra miraculeusement et préservera certains de ceux qui croient en lui, tout comme il l'a fait pour les trois jeunes Hébreux. Ils désobéirent au décret du roi Nabuchodonosor et en subirent les conséquences. Mais bien qu'ils n'échappèrent pas à sa furie et furent jetés au feu, le Dieu en qui ils avaient placé leur confiance les délivra. Tout comme l'ange de l'Éternel était présent dans la fournaise ardente avec les trois jeunes Hébreux, il soutiendra les Juifs quand ils seront pourchassés pendant la grande tribulation. Un texte prophétique dit « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Il ne fait aucun doute qu'à la fin des temps, pendant la période qui s'appelle la Grande Tribulation, les Juifs croyants trouveront dans le récit de la fidélité et du courage des trois compagnons de Daniel un exemple à suivre, mais aussi la consolation et le soutien dont ils auront besoin. Pareillement, Jésus réconforte les siens quand ils traversent des épreuves. Je lis de passage. « Je vous ai dit ces choses, dit Jésus, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Je continue le texte de Daniel. « Puis Nabuchodonosor s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent et se mit à crier. « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez de là et venez ici. » Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Verset 26. Nabuchodonosor ne reconnaît pas encore l'Éternel, le Dieu des Hébreux, comme le seul vrai Dieu. Mais il le proclame supérieur à tous les autres, du moins pendant quelques heures et alors que les événements qu'il vient de vivre sont encore frais dans sa tête. Cependant, il a déjà tenu ce genre de discours, mais ce n'était que des mots en l'air car son comportement arrogant et idolâtre n'a pas changé d'un iota. L'expression traduite ici par « Dieu très haut » apparaît à 13 reprises dans le livre de Daniel, dont 7 fois en rapport avec Nabuchodonosor. Il faut bien voir que ce roi était tiraillé. D'un côté, il avait du mal à accepter la supériorité de l'Éternel du fait qu'il croyait que c'était grâce aux divinités babyloniennes qu'il avait vaincu Juda et pu emmener la vaisselle du temple de Jérusalem dans la maison de son Dieu. Mais d'un autre côté, il se rendait bien compte que ces dieux étaient tout à fait incapables de délivrer quiconque d'une fournaise ardente. Son dilemme théologique était de l'ordre de la quadrature du cercle. Le roi, s'étant précipitamment levé, il va au-devant de l'entrée grillagée de la fournaise et demande aux trois amis de sortir, ce qu'ils font parce qu'ils n'ont plus de raison de continuer à se promener au milieu des flammes, maintenant que la démonstration de force de l'Éternel est terminée et que son ange a disparu. Je continue le texte. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent pour examiner ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Verset 27. Les hauts fonctionnaires se sont attroupés autour des trois amis pour les examiner à la loupe et même les renifler. Ils n'en reviennent pas. Aucune trace de feu, de fumée, absolument rien. Dans ce miracle, Dieu a méticuleusement contrôlé tous les détails de façon à ce que sa puissance soit reconnue sans ambiguïté par cette foule d'idolâtres. Je continue. Alors Nabuchodonosor s'écria, « Loué soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. » Verset 28. Nous sommes à des années-lumière de l'arrogance du roi quand il a dit « Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains ?» Maintenant, il est tout à fait convaincu de la puissance du Dieu des Hébreux et tout heureux de l'ajouter à sa liste de divinités. Son acceptation de l'omnipotence, de la toute-puissance de l'Éternel, ne modifie en rien le fait qu'il est toujours un païen convaincu dans l'âme et jusqu'au bout des ongles. Comme je l'ai déjà dit, pour les polythéistes, un dieu de plus ou de moins ne change pas grand-chose. Mais le roi ne sait pas encore qu'une dure leçon l'attend, qu'il va devoir apprendre de quel bois l'Éternel se chauffe et qu'il n'est pas un dieu parmi tant d'autres, mais le seul véritable. Par ailleurs, Nabuchodonosor exprime son étonnement vis-à-vis de l'attitude des trois jeunes hommes dont la foi n'a pas flanché malgré la sentence de mort qui les attendait en lui désobéissant. Il est impressionné par le fait que pour ces trois hommes, la fidélité à l'Éternel était plus importante que la vie. C'est effectivement la grande leçon de cette histoire. Sans faire un long discours, les trois compagnons de Daniel ont enseigné ce qu'est la vraie foi, et c'est la même sous le régime de l'Ancien ou du Nouveau Testament. En effet, Jésus a dit, « Tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père céleste. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père céleste. » Ces paroles sévères sont confirmées par l'apôtre Paul qui écrit « Si nous persévérons avec Jésus-Christ, nous régnerons, mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Je continue le texte de Daniel. « Voici donc ce que je décrète. Tout homme de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit qui parlera d'une manière irrespectueuse du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces. » Et sa maison sera détruite, réduite en un tas de décombres, parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. Verset 29. L'Éternel est promu au rang des divinités qu'il faut respecter. C'est un progrès, mais très insuffisant, car le Dieu des Hébreux est encore loin d'être honoré comme le seul véritable. Mais le jour viendra où le roi devra se repentir et changer radicalement d'opinion à son sujet. Je continue. Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Verset 30. Ces trois hommes ont déjà été sous une sentence de mort à deux reprises. La première fois parce qu'ils faisaient partie des sages. En effet, Nabuchodonosor s'était fâché contre eux parce que aucun d'entre eux n'avait été capable de lui rappeler le contenu de son rêve. Alors, il avait ordonné leur exécution. Heureusement, Dieu est intervenu et a révélé à Daniel le songe du roi ainsi que sa signification prophétique. C'est donc la deuxième fois que, d'une part, ces trois hommes échappent miraculeusement à la mort et d'autre part, qu'ils reçoivent une promotion dans le service du roi de Babylone. Pareillement, aujourd'hui encore, le Seigneur veille sur les siens, ce que de nombreux textes affirment. J'en lis quelques-uns. Jésus a dit: « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, ô Père. » Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. » Fin de citation. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit aussi: « Parce qu'il demeure éternellement, Jésus possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. » Alors qu'il attend son exécution dans le couloir de la mort, l'apôtre Paul écrit: « Je n'ai pas honte de mes souffrances, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. » Fin de citation. Je souhaite que ces passages, qui à travers les siècles ont réconforté d'innombrables croyants, soient aussi pour vous une source de consolation.